Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. La course au vaccin est contre la montre. En France, 1 million de personnes hier ont pu prendre rendez-vous. 800 centres ouverts à partir de lundi. Alors que Pfizer annonce un retard dans ses livraisons, le coup de massue pour toute l'Europe. La France qui part aussi à la chasse aux mutants. Un cas de variant sud-africain et dépistage XXL en région parisienne aujourd'hui. Dans l'actualité encore, élection à la CDU en Allemagne. Qui pour succéder à Angela Merkel, c'est l'avenir du pays qui se joue aussi. Un peu de danse au Grand Palais à Paris avant fermeture pour travaux. Et puis les sports, le hand, les bleus en championnat du monde et l'esprit sport ont fait du bobsleigh. Ça va glisser à la fin du journal.
Et à 8h20, notre invitée ce matin, ce sera Aurore Berger, la députée des Yvelines. Elle est aussi présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale.
France Inter. Le rempart contre le Covid, l'arme pour retrouver un jour une vie normale, le vaccin et le gouvernement qui appuie sur le starter. Depuis hier, toutes les personnes de plus de 75 ans ou vulnérables à haut risque peuvent s'inscrire. Ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Le site santé.fr, 20 000 connexions par minute hier et les numéros verts pris d'assaut. Près de 400 000 appels sur la journée. L'embouteillage parfois, comme ici en Touraine, c'est un reportage d'Annabelle Vanek.
Comme chez Christophe Géniès à Saint-Cyr-sur-Loire, ses patients qui ont appelé le numéro vert sont pour la plupart tombés sur ce message.
Suite à un grand nombre d'appels, nous vous remercions de bien vouloir réitérer votre appel.
Et ont donc rappelé dans la foulée leur médecin généraliste, qui est aussi le vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire. Il s'est ainsi retrouvé débordé par tous ces appels.
C'est la chialée la plus totale. Enfin, excusez-moi l'expression, mais là, on peine un peu. Là, c'est un peu difficile. L'effet d'annonce de M. Véran hier soir a dû être fait à condition d'être certain que derrière ça suivait, et ce n'est pas le cas. On a confié l'organisation de tout ça à des gens qui ne sont pas des gens de terrain.
Pour Christophe Lugnon, en revanche, de l'ARS Centre-Val de Loire, ce numéro est tout simplement victime de son succès. La situation va rentrer dans l'ordre, dit-il.
C'est une vaccination qui va prendre plusieurs semaines, donc on n'aurait pas de toute façon vacciné l'ensemble des personnes qui le souhaitent dès la semaine prochaine. C'est humainement et logistiquement impossible. Tout va être mis en œuvre pour répondre à cette appétence de vaccination.
Christophe Géniès craint pourtant que ça n'ait des répercussions sur la confiance des Tourangeaux.
En 10 jours, on était à 58% de gens qui n'étaient pas prêts à se faire vacciner. On est maintenant passé à 58% de gens qui veulent se faire vacciner. Mais encore faut-il qu'on mette les moyens en face, parce que sinon, ce combat qu'on était en train de gagner, on va le perdre.
Quelqu'un qui a décidé de se faire vacciner saura prendre patience, veut-on croire à l'ARS.
Et malgré tout, selon les chiffres du ministère, plus d'un million de personnes ont donc pu prendre rendez-vous hier. Plus de 800 centres seront ouverts à partir de lundi. Retrouvez la carte sur franceinter.fr. Le gouvernement l'a dit, il vise les 4 millions de personnes vaccinées d'ici fin février. Mais ça, c'était sans prévoir. Le coup de massue signé Pfizer hier, sans prévenir. Le groupe annonce qu'il va réduire les livraisons de son vaccin en Europe jusqu'à début février, car il doit rénover son usine située en Belgique pour fabriquer à terme plus de doses et plus vite. Pfizer promet de compenser d'ici le mois de mars, mais dans une Europe qui se lance dans la vaccination à tour de bras, ça ne pouvait pas tomber plus mal. Olivier Aymon pour les précisions.
Depuis son homologation, 1 500 000 doses du vaccin Pfizer ont été livrées en France et hier soir, moins de 400 000 personnes avaient été vaccinées. Donc il reste en théorie 1 100 000 doses disponibles. C'est suffisant pour démarrer lundi cette campagne ouverte aux personnes de plus de 75 ans ainsi qu'à celles souffrant de pathologies graves. Normalement, 520 000 doses Pfizer supplémentaires doivent arriver chaque semaine et c'est ce montant qui risque donc d'être vu à la baisse. Forte baisse, dit le gouvernement, sans donner plus de précision, sans donner de chiffrage. Mais forcément, ça va ralentir le rythme des vaccinations au cours des prochaines semaines. Impossible de compenser ce manque avec les flacons de l'autre vaccin disponible, le Moderna. Les doses n'arrivent que très progressivement. 50 000 ont été livrées cette semaine. Le seul élément qui pourrait changer la donne serait l'arrivée d'un troisième vaccin, celui d'AstraZeneca. Il faut pour cela que l'Agence européenne du médicament rende son avis. Cela doit être fait d'ici la fin du mois.
En attendant, l'Élysée a déjà prévenu qu'il allait falloir ajuster le rythme des vaccinations dans les semaines à venir. Eux seront un peu comme des garde-fous chargés de donner leur avis sur la campagne de vaccination. De faire remonter aussi les questions ou les obstacles. 35 citoyens tirés au sort. Un collectif sur la vaccination, un peu sur le modèle de la Convention Climat. Première réunion aujourd'hui. Et puis la mesure phare du gouvernement cette semaine pour tenter de contenir l'épidémie, d'éviter peut-être le confinement. Le couvre-feu avancé à 18h partout en France et pour tout le monde. L'image d'une Europe qui n'accorde pas ses violons. Quand les restaurants en France sont fermés depuis le 30 octobre, ils sont ouverts de l'autre côté de la frontière. frontière espagnole. Depuis le 17 décembre, les Français qui vivent tout près, de l'autre côté de la frontière, n'hésitent plus à traverser pour un déjeuner les pieds sous la table. Sébastien Sabiron.
Restaurateur au col d'Ibardine côté espagnol, il préfère garder l'anonymat par respect, dit-il, pour ses confrères français. Tous les midis, sa cidrerie affiche complet. Parmi ses clients, 99% de Français qui retrouvent le plaisir de déjeuner au restaurant.
Les clients qui viennent ici chez nous, ils sont ravis de pouvoir venir dans un restaurant. C'est la première fois que ça m'arrive que les clients me remercient d'ouvrir le restaurant.
Protocole sanitaire oblige, le restaurateur ne peut accueillir que 60 clients contre 200 en temps normal, mieux que rien dans la mesure où ses confrères français, eux, sont fermés.
À la Pentecôte, c'était à l'envers. Nos confrères français, ils ont travaillé, pas nous. Nous, on était fermés. C'est une situation très triste pour tout le monde.
Installé lui aussi en Navarre, Jean-François Madrid ne profite pas vraiment de l'aubaine car avec la neige, son restaurant est difficile d'accès. Mais il reste ouvert et s'inquiète pour son frère, restaurateur comme lui.
Mon frère qui a un restaurant côté français, 3 mètres des autres Benta espagnols, c'est que la route qui fait la frontière. Eux, ils font le plein, il y a des gens qui attendent leur tour, tellement il y a de monde. Et côté français, ben, on est fermé. Après, c'est une décision qui est nationale. On ne peut pas faire des décisions cas pour cas avec X ou Y raison. Mais nous, c'est sûr qu'on trouve ça vraiment bizarre.
Si la frontière espagnole reste ouverte, les communautés autonomes appliquent des restrictions disparates, mais qui ne concernent que leurs ressortissants. Les Français peuvent donc s'y rendre librement.
Et pas sûr que ça dure. L'Espagne, avec une explosion des cas, envisage un prochain confinement. Et puis toujours ces clones, ces variants, ces mutants qui planent, le britannique, le brésilien et puis le sud-africain. Un habitant du Val-de-Marne, de retour du Mozambique, est porteur de ce variant. Une opération de dépistage taille XXL commence aujourd'hui. À l'échelle mondiale aussi, c'est la course. L'Organisation mondiale de la santé réclame une vaccination dans tous les pays pour les 100 prochains jours. L'Inde, par exemple, qui se lance également. Méga campagne de vaccination gratuite qui démarre aujourd'hui. Défi logistique taille XXL. 300 millions de personnes vaccinées d'ici l'été. C'est l'objectif, l'équivalent quand même de la population américaine. À propos des États-Unis, Joe Biden, qui sera le 46e président mercredi prochain, a déjà annoncé la couleur. Il veut ouvrir, lui, des milliers de centres de vaccination pour atteindre les 100 millions de doses injectées sur les 100 premiers jours de son mandat. Et puis, on en sait plus aussi sur cette journée d'investiture. Mercredi, à l'aube, à l'heure où blanchit le green, Donald Trump évitera soigneusement de croiser son successeur. Il prendra une dernière fois l'Air Force One pour se rendre dans son club de Mar-a-Lago en Floride, où il a l'intention de s'installer. Et donc, on devine, de golfer.
Et une question également ce matin à la une. Qui va succéder à Angela Merkel au pouvoir depuis 15 ans en Allemagne donc?
Qui sera le prochain président de la CDU? Ce qui revient quasiment à poser la question du prochain chancelier. Le parti conservateur va-t-il rester au centre ou mettre la barre à droite? Les trois candidats seront départagés ce midi à l'issue d'un congrès virtuel. Notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu.
On ne les verra que ce matin. Les trois candidats n'étaient pas à l'affiche. Hier soir, c'était elle pour son dernier congrès.
Frau Bundeskanzlerin.
Angela Merkel. Elle revient sur ses 15 années à la tête du pays et elle dit que les choses ont bien changé. On n'avait pas de smartphone à l'époque, se rappelle-t-elle. La Chine pesait économiquement moins que l'Allemagne. Merkel continue ainsi de décrire l'état du monde, les tempêtes qu'elle a traversées, mais aussi ce qu'elle a fait pour son pays. Elle dresse son propre bilan. Mais c'est une façon de dire aux 1001 délégués qui vont voter pour le successeur, réfléchissez bien. Je suis convaincu, lance-t-elle, que le monde va changer encore plus vite ces 15 prochaines années. En tant que grand parti populaire du centre, on doit chercher des solutions, éviter les conflits, rassembler le plus large possible. Et elle ajoute, j'espère qu'une équipe sera élue qui prendra en main le destin de notre parti. Il était évident qu'Angela Merkel enverrait un signal aux délégués, une sorte de consigne de vote. Elle parle d'une équipe. Parmi les trois candidats, un seul a choisi de se présenter en ticket, Armin Laschet, le plus consensuel, associé à l'actuel ministre de la Santé, Jens Spahn. C'est cette équipe dont elle parle, ce n'est pas une grande surprise. Les deux autres candidats, Friedrich Merz et Norbert Röttgen, se sont fâchés avec elle au cours de ces 15 dernières années. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Paris, Ottawa, de la friture sur la ligne. Le groupe canadien Alimentation Couche-Tard aurait renoncé à avaler le français Carrefour, selon les agences Reuters et Bloomberg cette nuit. Bercy avait mis son veto hier au nom de la sécurité alimentaire. Le Canadien aurait donc renoncé à son offre de rachat, mais pas de commentaires ce matin des principaux concernés. Là, c'est l'effet Covid. La SNCF dans un tunnel. Le nombre de voyageurs a plongé de 42% l'an dernier. Une chute qui fait craindre le pire pour les comptes du groupe. Eurostar est même au bord de la faillite. suite.
Et attention à cette alerte orange, neige et verglas dans 26 départements.
Soyez prudents si vous prenez le volant, ça commence en Normandie. Ce matin, la région parisienne et les Hauts-de-France à la mi-journée pour finir plus à l'est en Champagne-Ardenne ou en Bourgogne. En Alsace, la neige en abondance, plus de 25 cm en pleine, circulation des trains perturbée, idem sur les routes et 5000 foyers toujours privés d'électricité. En bref, encore 80 cortèges dans toute la France, plusieurs milliers de personnes attendues et redoutées par la préfecture à Paris à partir de 14h. Première manifestation de l'année contre le projet de loi sécurité globale et à 2 semaines maintenant du Beauvau de la sécurité. On n'a pas vraiment chanté tout l'été, mais peut-être pourrions-nous maintenant danser. Le Grand Palais à Paris ferme ce week-end avant travaux, réouverture prévue en 2024 pour les JO. Et pour l'occasion, il devait y avoir une grande fête autour du chorégraphe Boris Charmatz avec des milliers de spectateurs. Eh bien, ce seront des téléspectateurs, car le danseur a décidé de maintenir l'événement à huis clos. Ce sera capté et diffusé bientôt sur France Télé, Stéphane Capron.
La trompette de Médéric Collignon résonne dans le vide sidéral sous la verrière du Grand Palais. Il se déplace au centre avec le danseur Samuel Lefeuvre. Deux artistes isolés dans un désert artistique. Boris Charmatz a imaginé son spectacle autour de La Ronde, la nouvelle d'Arthur Schnitzler, écrite en 1900, l'année de l'inauguration du Grand Palais pour l'exposition universelle. Sa Ronde est une déclaration d'amour à tous les danseurs qui l'ont accompagné dans sa carrière. Il a tenu à maintenir le spectacle, même à huis clos.
On n'a plus que le temps du couvre-feu, qu'est-ce qu'on fait? On danse quand même. On est 20 danseurs, on fait une ronde de duo infini, comme ça on danse pendant 11 heures d'affilée. Il n'y a pas de public, on le fait quand même. Mais il n'y aurait pas les caméras, on le ferait quand même. Il y a une force aussi à se dire le lieu est vide, le public n'a pas le droit de venir, mais nous, on dansera quand même. Il y a comme ça des choses qu'on a préparées et qu'on va faire quoi qu'il arrive.
Danser, c'est pour Boris Charmatz un acte de résistance. Sa ronde de 11 heures est une sorte de servante dansée, cette lampe qui ne s'éteint jamais sur scène. Il envisage d'ailleurs de reproduire ce geste artistique plus tard, quand les théâtres rouvriront.
Le reportage de Stéphane Capron à 8h12, c'est l'heure des sports.
Du hand sur le menu, deuxième match des Bleus pour le championnat du monde en Égypte. Ce sera face à l'Autriche, compétition sanitairement très encadrée, mais le coach Guillaume Gilles ne se plaint pas.
On a la chance, à la différence des filles, de pouvoir bénéficier d'un environnement qui est très clément, il fait très beau. On a accès aux espaces extérieurs de l'hôtel, on a des zones herbeuses qui nous permettent aussi de faire quelques activités physiques en extérieur, ce qui à cette période-là est juste exceptionnel. On bénéficie d'un cadre et d'une vue qui est extraordinaire. On est à l'écoute des joueurs pour sonder leur état d'esprit, leurs besoins et aussi faire en sorte de les préparer à ce qui reste le plus important, à savoir faire des matchs et les gagner.
Et France-Autriche, coup d'envoi tout à l'heure à 18h. Le foot rattrapé à nouveau par le Covid. Mauricio Pochettino sur la touche. Le nouvel entraîneur du PSG dépisté positif. Ce sont ses adjoints qui vont prendre la relève. Et puis pour la première fois depuis novembre, un match de Ligue 1 a dû être reporté. Lorient-Dijon n'aura pas lieu dimanche. Flambée des cas chez les Merlus. Plus d'une dizaine de joueurs testés positifs. Allez, c'est l'heure de notre esprit sport. Avec vous, Laetitia Bernard, bonjour.
Bonjour.
Nous partons faire du bobsleigh ce matin. Coupe du Monde qui fait étape à Saint-Maurice. Et vous avez repéré dans les toutes nouvelles recrues de l'équipe de France féminine une championne de cyclisme sur piste. Tiens donc, elle s'appelle Sandy Claire, on la connaît, hein, la Varoise, qui se lance donc dans une seconde carrière sportive.
Alors on le rappelle, Sandy Claire, c'est près de 15 ans en équipe de France de cyclisme sur piste, des titres de championne d'Europe, 2 participations aux Jeux Olympiques d'été. Mais ce week-end, elle est bien au départ de la Coupe du Monde de bobsleigh en tant que pousseuse. C'est elle qui propulse au départ l'engin de plusieurs centaines de kilos, piloté par Margot Bosch. Autant dire que les qualités de force et d'explosivité qu'elle a développées, notamment dans les départs arrêtés en vélo, sont largement mises à profit.
Au niveau mental et émotionnel, ça ressemble beaucoup à ce que je faisais avant, puisque c'est une concentration énorme, c'est faut se mettre dans un état d'esprit pour avoir envie de tout arracher au départ. En fait, je fais monter des émotions qui vont me permettre de pas être à 100% mais à 200% en fait. Et du coup, moi j'ai une rage qui s'installe au plus on s'approche, enfin du moment où on pousse le bob, au plus ma rage elle va monter.
Et ce qu'elle aime avant tout, c'est l'effort, même si elle a conscience de sa marge de progression, surtout pour la technique de course à pied, hein, au départ, qu'elle ne pratiquait pas dans sa première vie de sportive.
Mais et comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à faire du bobsleigh?
Ben c'est justement après avoir dû mettre un terme à sa première carrière, à sa carrière de cycliste, il y a un an et demi. Elle s'est retrouvée confrontée à la fameuse question de la reconversion des sportifs. Alors elle a même passé un diplôme de coach, elle a commencé à travailler dans une salle de sport. Mais elle raconte que l'idée du bobsleigh, elle est partie d'un délire avec son frère. Sauf qu'après seulement quelques semaines d'essai, ben elle a décidé de s'y consacrer entièrement. Et elle a été repérée dès sa première participation en Coupe de France de pousse. Elle fait désormais partie du collectif France en tant que remplaçante, mais donc elle a désormais l'occasion de plonger dans le grand bain comme ce week-end en Coupe du Monde.
Et ses ambitions alors pour la suite?
Forcément continuer à s'améliorer, rester dans le collectif France et pourquoi pas participer à de nouveaux Jeux Olympiques, mais cette fois en hiver.
Du vélo au bobsleigh avec Eric, mais on va passer du tennis au curling.
Avec plaisir, tiens, on va faire ça. Laetitia Bernard dans le journal d'Hélène Roussel. Le temps de ce samedi.
La météo avec Via Santé. La mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Et attention donc à cette vigilance orange, neige et verglas dans 26 départements, Jean-Michel Golinski.
Neige et pluie verglaçante à la une de l'actualité aujourd'hui. La pluie en provenance de la pointe ouest arrive sur des températures négatives en pénétrant vers l'intérieur. Conséquence, elle va se transformer en neige et en pluie verglaçante ce matin sur la Haute-Normandie et le Val-de-Loire, à la mi-journée entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et le centre, et ce soir sur Champagne-Ardenne et de la Bourgogne au nord de Rhône-Alpes ainsi que sur le Massif central. Dans cette zone, 26 départements sont placé en vigilance orange, neige et verglas. Notez qu'à l'arrière, le temps va tourner à la pluie, déjà ce matin sur la Bretagne où il fait une dizaine de degrés contre moins 12 relevés sur la Lorraine, généralement moins 3, moins 6 sur les autres régions. Le tiers sud va rester à l'écart de ce temps perturbé, mais avec du vent, vers 70 pour le Mistral et la Tramontane, vent également sensible aujourd'hui au nord de la Loire.
Jean-Michel Golinski de Météo France.